Ça commence.
Vincent Landon, bonjour.
Bonjour.
Votre personnage, Pierre, finalement, est-ce qu'il a un sentiment de louper quelque chose, et d'avoir loupé quelque chose surtout, et finalement de culpabiliser? Est-ce que vous, en tant que père, vous avez parfois la question de savoir quel avenir vous allez laisser à vos enfants, et est-ce que vous avez bien fait?
Alors, donc en fait, le problème, c'est que dans votre question, il y a déjà des réponses. Donc c'est pas facile. Moi je suis pas très apte à parler de ma vie privée, mais c'est pas non plus si privé que ça. Alors on va commencer par le début. Je pense que tous les êtres humains, quelle que soit leur intelligence et quelle que soit même leur sensibilité et quelle que soit leur propension à la discussion ou pas, quand ils sont peuvent avoir le sentiment de culpabilité d'avoir raté quelque chose. Quand le fait est qu'il y a un événement comme celui dans le film où un de ses deux fils se radicalise pour une chose extrême. En l'occurrence, dans le film, là, c'est un groupuscule d'extrême droite. Mais je dis souvent, ça aurait pu arriver avec la religion, ça aurait pu arriver avec une secte, ça aurait pu arriver avec une addiction, qu'elle soit l'alcool ou la drogue. Bon, là, c'est un groupuscule d'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est toujours pareil. Il y a deux histoires dans le film. Il y a la petite histoire et la grande histoire. Mais c'est pas une question
de niveau.
C'est quand je dis la petite histoire et la grande histoire, c'est que c'est rare de trouver un scénario où il y a deux histoires. Et c'est ça que j'aime dans la complexité de ce film. C'est qu'il y a en même temps un des deux fils qui se radicalise, mais est-ce que le sujet, ça n'est pas ça, et plutôt l'amour? Parce que tout est amour. Comment un père démuni fait pour arriver à élever ses deux fils alors que la maman n'est plus là? Comment une famille peut se désintégrer, peut s'effondrer, ou en tout cas être fortement atteinte parce que un des membres prend une direction totalement inattendue et violente? Parce qu'en fait, si on revient à la base de ce film, qui est un livre au départ, qui a été adapté de Laurent Petit-Mangin, qui s'appelle « Ce qu'il faut de nuit », c'est très intéressant de voir que ces deux sœurs qui ont mis en scène trois hommes, donc deux femmes qui ont mis en scène trois hommes, dont deux frères de l'autre côté, un peu comme un dé, vous savez, les phases des dés où il y a le 5. C'est 2-2, le point central qui est Pierre, et renouveau 2 en bas. Donc deux frères, deux sœurs et moi au milieu. Avec un film où la maman est décédée, donc il y a un homme veuf et deux enfants orphelins. C'est quand même très, très, très violent. Chacun ne réagit pas pareil devant ce vertige et devant ce drame et cette tristesse. Il y a des gens les gens font ce qu'ils peuvent. C'est ça qui m'intéresse aussi dans le film, qui parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a un père qui, lui, essaye de rester de plus en plus longtemps au travail, à retarder le moment où il va rentrer, parce que inconsciemment, il sait que quand il va rentrer dans une maison où il n'y a plus la maman. Il a passé sa vie à rentrer avec cette personne qui l'attendait, ou inversement, elle qui rentre et lui qui l'attend. Mais une maison qui est habitée, avec le soir, on va dormir l'un contre l'autre. Or, ça, c'est fini. Donc, si je peux éviter le plus longtemps possible de retourner dans cet endroit qui va immédiatement me montrer qu'il est déshabité par la personne que j'aimais, il y a un des frères qui, lui, sa manière de faire son deuil, c'est de se jeter corps et âme dans le travail, dans sa passion, dans son ambition, dans l'envie de monter à Paris et de faire une grande école, pour s'en sortir, pour s'extraire de cette région, et pouvoir éventuellement monter à la capitale. Et le deuxième frère, mais il n'a pas cette force-là. Lui, il n'est pas animé par une passion. Et donc, dans ces endroits où aujourd'hui la mondialisation, la modernité fait que on l'outil, la machine, la numérisation, un jour l'intelligence artificielle remplacera de plus en plus les humains, on ferme des usines. Mais c'est pas que en France, c'est dans tous les pays, que ce soit en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Portugal, aux États-Unis, en Australie, où vous voulez. Et donc, quand on ferme une usine, on oublie toujours que s'il y a 2000 personnes dedans, il y a 1000 femmes, 1000 hommes qui sont mis au chômage, on ne touche pas que 2000 personnes. On touche, ces gens ont des familles, des maris, des femmes, des concubins, et des enfants. Et donc, ça touche parfois des foyers de 4 à 5 personnes, ce qui fait que c'est 10 000 personnes qui sont touchées.
Mais justement, Vincent, c'est ça qui est touchant dans le film, c'est que c'est le portrait d'un père, vous le dites, à travers l'amour de ses enfants, mais c'est aussi le portrait d'un pays. J'interviewais les sœurs Coulin qui disaient qu'elles voulaient aussi un acteur auquel les Français puissent s'identifier d'une certaine manière. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? C'était aussi, derrière le portrait de cet homme, le portrait d'un pays, la France, à l'heure où, quand même, l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mais pas que de la France, de l'Italie, où là, c'est pas proche, ça y est.
Non, France et le monde.
Mais voilà, c'est exactement ça, pour ça que je vous disais ça avant. C'est pas la France, ça serait quasiment, j'ai envie de dire, ça serait trop beau. C'est le monde. Et donc, je finis pour ce que je disais, juste, il y a une jeunesse qui est désœuvrée, qui est désenchantée, qui est désespérée. Et quoi de plus facile quand on tombe sur un être humain qui est désœuvré, qui traîne et qui est désenchanté? Eh bien, il suffit de lui montrer un tout petit peu d'intérêt et on l'enrôle et on l'emmène où on veut. C'est comme ça que tous les mouvements, quels qu'ils soient, toutes les addictions se sont passées depuis que le monde existe. Ils s'attaquent aux gens faibles, à ceux qui sont en faiblesse, pas aux gens forts. Les gens forts, on peut pas arriver à les sortir de leur endroit pour les amener ailleurs. Mais les gens faibles ne demandent qu'à croire en quelque chose. Ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les abandonne pas et qu'on leur propose quelque chose. Peu importe quoi, juste une proposition, un os à ronger. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fasciné dans le film, que je n'avais pas vu à la lecture, et que j'ai vu par le jeu formidable de Benjamin Voisin, pendant le film, c'est, je ne sais pas comment il a fait, mais ça, chacun a sa manière de, et j'ai adoré la façon dont on sent, mais en filigrane, très 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 loin, qu'il ne croit même pas à ce qu'il fait. Il n'y croit pas vraiment. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est bouleversant. C'est que j'ai tendance à me raconter l'histoire pour me rassurer qu'à un moment, il aurait pu se rendre compte. Voilà. Parce qu'il a reçu une éducation, parce qu'il vit dans une maison où quand même, qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup d'amour, ça manque de communication, mais tout ça est arrivé depuis le départ de la maman, depuis la mort de la mère. Parce que, et donc ce film qui est fait par ces deux sœurs, où il n'y a pas de femme dans le film, est en fait, le sentiment féminin est très très présent. Je sens la maman dans la maison tout le temps, qui les regarde, et j'ai toujours l'impression, je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé si elle avait été là? Est-ce que ceci serait arrivé comme ça? Est-ce que lui aurait dit ça? Et donc, en fait, c'est très beau, c'est très touchant.
Et la conclusion, c'est quoi? S'il y avait eu une maman, j'aurais pu.
J'en sais rien. Ce qui est beau, c'est de se dire, mais comme l'inverse, si ça avait été la maman qui était restée avec. Évidemment, si la maman était restée avec les deux enfants, le père aurait manqué énormément. Je veux dire, il faut les deux pour faire un monde. Ce qui est fou, c'est que, en fait, c'est la peine et c'est. C'est un film qui montre aussi que on fait son deuil comme on peut et que on n'a pas tous la même force devant l'adversité et qu'on n'a pas tous le même courage et qu'on peut être élevé, manger les mêmes aliments, dormir dans des chambres qui sont identiques et avoir reçu la même éducation, avoir eu les mêmes conversations et ne pas tourner de la même manière. Sans compter qu'en plus, chose alors qui est assez extraordinaire dans le film, c'est que les deux frères sont totalement opposés, que le petit juge extrêmement mal ce que fait le grand, mais si le père se met à engueuler le grand, le petit le défend immédiatement. C'est-à-dire que c'est inconditionnel en triangle. J'aime mes deux fils inconditionnellement, ils s'aiment inconditionnellement. On touche pas à l'un sans que l'autre s'en mêle. Donc c'est la complexité de la vie, c'est pas rien, hein, c'est... Voilà, c'est tout ça qui m'a plu. Évidemment qu'après, ce qui me plaît, c'est de montrer ce qui se passe en France, mais en Europe, mais dans le monde entier. C'est-à-dire, évidemment, cette poussée de l'extrême droite avec les jeunes qui la rejoignent, mais pas seulement les jeunes. Il faut arrêter de toujours mettre tout sur les jeunes. Les gens en général, dont les jeunes. Mais ça n'est pas que ça. c'est aussi le départ des choses, remonter au départ des choses. Souvent, ça peut être l'amour. Souvent, ça peut être le manque de communication. Souvent, ça peut être le manque d'intérêt pour les gens.
L'amour avant la politique, non ?
Ah, pour moi, l'amour, c'est tout est amour et c'est tout. Tout est avant. Rien n'est avant l'amour. Je vais me raconter une anecdote grâce à ce film. Je me suis posé la question l'autre jour. Il y a un film que j'aime beaucoup et un livre que j'aime beaucoup de Emmanuel Carrère qui s'appelle L'Adversaire, dont Nicole Garcia a fait le film. Et dans L'Adversaire, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Roman et qui tue toute sa famille à la fin du film. Et l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis dans Jouer avec le feu, parce que j'adore ce film, je suis très, très, très fier, vraiment. Comme rarement, sinon je ne serais pas là. Je me suis posé la question et je ne sais pas pourquoi je suis parti sur L'Adversaire. Et parce que je parlais à un journaliste et je disais, il y a la petite histoire et la grande histoire. Il y a deux histoires. Et moi, j'aime les films où il y a deux histoires. Et qui ne donnent pas d'ordre, qui ne disent pas, il faut penser comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non. Il y a des faits et puis quand on sort, les gens, avec leur conscience, se débrouillent avec. Et de deux histoires, la petite et la grande histoire, mais la petite peut être la grande et la grande peut être la petite, peu importe. J'ai dit, mais dans le film, dans le livre d'Emmanuel Carrère, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre film à faire ? Il y a deux histoires. Ce n'est pas l'histoire seulement de Jean-Claude Roman qui ment à sa femme et qui tue toute sa famille à la fin du film. L'autre histoire, c'est comment peut-on si peu aimer son homme pour ne pas voir pendant 20 ans qu'il vous ment ? Ça aussi, c'est une histoire.
Ça aussi, c'est possible.
Oui, mais c'est ça l'amour. Donc le film, c'est aussi un film d'amour. Comment fait-on pour est-ce que vraiment
l'arnaque à Brad Pitt, elle, je crois que
oui, mais est-ce que non, mais ma question, mais ma question, c'est pas non.
C'est à cause de l'amour.
Non, c'est pas ça que je disais. Je dis comment peut-on ne pas aimer en fait quelqu'un avec qui on vit depuis 20 ans, croire qu'on aime, mais en fait, ça n'est pas ça l'amour. Comment fait-on pour si peu aimer quelqu'un ou mal l'aimer, pour ne pas se rendre compte qu'il vous ment depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on ne le regarde pas. On ne le regarde pas, en fait. On croit qu'on écoute, mais seulement on entend. On croit qu'on communique, mais en fait, on parle. Et on croit qu'on regarde, mais en fait, on voit juste.
Mais on peut être aussi mal outillé, monsieur Lindon. Et je pense que le père de famille que vous incarnez dans ce film-là, il lui manque des outils. Non ?
Pourquoi mal outillé ?
Parce que, en parlant avec les sœurs Coulin, elles disaient, on a fait un film qui n'est pas du tout manichéen, et chacun dans cette famille a une part de responsabilité, oui. Le père aussi.
Donc, s'il y a une part de responsabilité, ce n'est pas mal outillé. C'est qu'il est bien outillé, mais qu'il ne s'en est pas servi, c'est l'outil. Non, moi, je n'ai pas envie de défendre. Je finis juste, c'est important. Moi, je pense que tout est une danse à deux. C'est un homme formidable, mais ce n'est pas parce qu'on est un homme formidable qu'on ne peut pas avouer qu'on s'est mal débrouillé. C'est un peu facile d'être mal outillé. C'est souvent ce que j'entends aujourd'hui dans la vie, c'est « Oui, mais tu ne te rends pas compte avec l'enfance qu'il a eue. » Oui, il y a un moment, ça va bien. À 55 ans ou à 60 ans, il y a un moment, même si on a subi, on a pas sans arrêt tout ramené à la psychanalyse, à un moment, il faut parler avec ses enfants. À un moment, il faut parler avec sa femme, avec son mari, avec son concubin. À un moment, il faut dire les choses. Alors, vous savez, c'est toujours pareil, ça m'a toujours fasciné à Noël, quand on fait des Noëls familiaux, il y a toujours un membre de la famille où il y a sa femme ou son mari qui vient et qui fait « Pardon, il est un peu, il sait pas dire merci, mais bah oui, mais il a qu'à... oui, mais tu sais, il est très... lui, il est très... Bon, oui, il est mal outillé, mais enfin, oui, mais enfin, à un moment, au bout de 35 Noëls, change d'outil. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne peux pas excuser tous les personnages.
Absolument.
Voilà, donc c'est... Mais en effet, c'est vrai aussi. Bon. Oui.
Mais je comprends ce que vous dites, mais justement, est-ce que le cinéma ou le cinéma que vous aimez ou que vous avez envie de faire ne se place pas aussi à cet endroit-là de montrer des gestes, des choses qui peuvent être justes ? Par exemple, le moment où ce père va toucher ses enfants physiquement, ça peut être des moments extrêmement émouvants pour le spectateur de se dire, mais en fait... C'est ça, la justesse d'une relation que moi, je ne vais pas avoir dans ma vie. Mais d'essayer de retrouver des gestes justes, des gestes authentiques. Est-ce que vous faites aussi du cinéma pour ça ?
Non, je ne sais pas pourquoi je fais du cinéma. Je ne sais même pas pourquoi je suis acteur. Et comment je suis devenu acteur, c'est le destin. J'étais pas, j'étais pas prévu pour ça, et c'est pas ça que je voulais faire au départ. Et donc, je sais pas pourquoi je fais les choses. Je pense que il y a deux façons de réfléchir. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est comme ça. Il y en a deux. Il y a celle où il y a des êtres humains qui reçoivent une information d'abord dans le cerveau, qui se réunissent, qui réfléchissent, et après ils libèrent leur décision qui les sent au cœur. Et ils demandent au cœur ce qu'ils en pensent. Et il y a d'autres gens qui reçoivent des informations au cœur, ils se réunissent, et c'est une fois qu'ils ont pris des décisions que ça monte au cerveau. Moi, je suis plus animal. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire oui ou non, sans réfléchir, comme une impulsion, comme une quand c'est un oui, comme une attraction, et quand c'est un non, comme une défense. Ou je sauve ma peau, ou je me jette à l'eau. Et après, je me mets à réfléchir. Mais il y a des gens qui sont plus raisonnables que ça. Je suis pas quelqu'un de raisonnable, moi. Donc, je ne sais pas très bien même pourquoi j'ai fait ce film. J'ai juste lu ce film. Ça m'a bouleversé. J'ai fermé la page. Et ça n'est pas une blague que je vous raconte. Ça m'est arrivé 5-6 fois, même 10 fois dans ma vie. Le temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai fermé le scénario et le moment où j'ai appelé l'une des deux sœurs, parce qu'elles habitent pas ensemble, donc il faut bien appeler une avant l'autre, et peu importe laquelle, et le moment où j'ai appelé l'une des sœurs, il y a eu moins d'une minute.
Oula.
Moi, je ne me dis pas, bon, allez, maintenant je vais aller me promener, je vais réfléchir. Non, j'appelle et je fais oui, je le fais. Après, on verra. Moi, d'abord, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous savez, tout le temps, les parents disent ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ben, tiens, je vais me gêner. Je vends la peau de l'ours. Et après, je vais le tuer. Et si je devais faire du théâtre ou un stand-up un jour, je sais déjà comment je vais faire. Je vais d'abord réserver un théâtre, et comme ça je suis obligé d'écrire un stand-up. Sinon je vais jamais y aller. Et en fait, pour moi, et c'est ça qui me plaît, mais je ne parle que de ce que je ressens moi, pour moi le pouvoir c'est de dire oui dans la vie, c'est pas de dire non. Non c'est le numéro 2 qui dit non, ou la numéro 2. Oui, c'est vraiment, le pouvoir c'est de dire oui, parce que quand on dit oui, après il faut faire les choses. Oui, on va faire un enfant. Oui, on va construire une maison. Oui, on va aller en voyage. Oui, on va faire ça. Oui, 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 oui. Mais après, c'est bien beau, mais parce qu'on est obligé de tenir ses promesses. Et je trouve que c'est le pouvoir, c'est ça, c'est de tenir ses promesses. Et donc là, on s'est écarté du film. Mais je ne sais pas pourquoi je fais les films. Ce personnage, c'est vrai que donc les sœurs Coulin, Delphine et Muriel Coulin disaient. C'est vrai que Vincent, pour représenter ce Français, on va gagner du temps. En gros, c'est ça qu'elles disent. Et ça, c'est leur point de vue de metteur en scène, et je l'entends très bien. Moi, ma façon de gagner du temps, c'est souvent de prier pour que les films, quand je fais un métier dedans, on filme très très vite. On me filme très très vite faisant ce métier et le faisant bien. Parce que quand vous faites bien un métier...
On y croit.
C'est fini. C'est un passeport. C'est comme un laissez-passer. Voilà. Ça, c'est réglé. Et donc, on peut croire beaucoup plus au personnage.
Ça, c'est politique, quand même, un petit exercice.
Bien sûr que c'est politique.
Mais seulement l'intuition, quand tu choisis un rôle, c'est seulement vous avez un plan de travailler avec celui-là.
Non. Je n'ai aucun rêve de travailler avec des gens ou de rencontrer en amour des gens. Ou de rencontrer des gens en amitié, tout simplement parce que je passe le moins de temps possible à essayer de changer ce qui n'est pas changeable. Je passe le plus de temps possible à essayer de changer ce qui est changeable. Et que ce que je fais, c'est que je n'ai pas envie d'être déçu, de m'être fixé des rêves que je n'atteins pas. Donc, je n'ai pas de rêve, en tout cas que je me fais croire. Et une fois que les choses arrivent, parce qu'elles me plaisent, j'explique rétroactivement, je décide que c'était que j'en rêvais. C'est beaucoup plus simple. Donc en fait, si je rencontre une femme, un homme, et que je tombe amoureux, ou en amitié, en amour, c'est après que je fais « Non mais j'en rêvais de rencontrer cette personne ». C'est beaucoup plus simple, parce que si je commence à rêver de tourner avec un tel, il ne me prendra jamais, ça va être une déception. Rajouter à une autre déception, ma vie c'est pas de me lever le matin et de décompter toutes les choses auxquelles je rêve et auxquelles je n'arrive pas à atteindre. Non, je préfère être une carte blanche, j'avance, et... Je prends par intuition et réflexion quand même, mais et habitude de la vie aussi, les choses qui me plaisent. et après je décide que j'en rêvais.
Il
y a une chose qui m'intéresse aussi dans le film, parce que ça existe aussi à Portugal, c'est l'infiltration des mouvements d'extrême droite dans les clubs de fans de foot. Je ne sais pas quelle est la situation en France et comment vous avez tourné pendant un match. Ça doit être extraordinaire, ce tourner.
Alors situation. D'abord, en France, c'est pareil qu'en Italie et c'est pareil que dans les autres pays. Je ne pourrais pas vous expliquer comment ça s'est implanté et pourquoi c'est toujours dans les virages des stades qui sont. Nous, on a tourné la scène. Vous imaginez bien qu'on n'a pas tourné la scène au milieu des vrais
des ultras.
Non, c'est pas possible. Mais tout simplement parce que je pense que aller filmer des gens dans un film, sachant qu'ils vont être utilisés pour le film, c'est une agression. C'est
une manipulation.
Mais je veux pas dans un stade de film. Moi, Vincent. Moi, je m'énerve toujours quand quelqu'un au restaurant, tout d'un coup, fait comme ça, sans me demander. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Oui, mais c'était pour pas vous déranger. Ben oui, mais vous me dérangez, justement, parce que je perds 5 minutes à venir vous expliquer qu'il fallait pas dites bonjour, comment allez-vous? Est-ce que je peux prendre une photo? Oui, mais c'était pour pas vous déranger. Je dis, oui, ça vous venez de le dire, j'ai compris. Mais vous me dérangez, justement. Donc, c'est impossible de filmer la scène pour de vrai. Ou c'est mettre ces acteurs en danger. Ou les autres en danger. Enfin, c'est. Mais par contre, on peut tourner avec des acteurs, qui sont absolument merveilleux d'ailleurs, ceux qui. Tout près de cette vraie zone, pour faire comme c'était un ensemble. Mais après, bon, là, je vous réponds à une question pour le principe de répondre, parce que franchement, je ne suis pas du tout un expert de l'extrémisme dans les stades de foot.
Vous parlez de vos deux partenaires, à savoir Benjamin et Stéphane. Stéphane disait qu'il avait été en colloque avec Benjamin. Ça crée, je suppose, une complicité qui apparaît sur le tournage. Et de votre côté, est-ce que vous avez voulu rentrer dans cette complicité ou au contraire conserver un certain recul comme père?
Je ne pense pas à tout ça du tout. Je ne pense pas, ce qui est fou et que j'aime bien les journalistes, c'est que vous nous posez des questions auxquelles, si je me posais ces questions avant de tourner, mais je reste dans mon lit, moi. Parce que eux, ils étaient complices dans la vie, mais moi, j'étais pas complice avec eux. Mmh. Et ils jouent pas mieux que moi, je joue pas mieux qu'eux. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on croit, mais si vous saviez, jouer un personnage, c'est juste accepter de donner son corps, sa voix à quelqu'un que vous avez lu et où vous dites j'aimerais bien être lui ou j'aimerais bien être elle. Si un acteur et une actrice ne s'affectionnent pas plus que ça, il y a des histoires, je ne vous dirai pas qui, mais des histoires dans des films il y a bien longtemps maintenant, mais d'un homme et d'un acteur et d'une actrice qui ne pouvaient pas se supporter. Et qui ont fait un film d'amour et on sort du film, on fait mieux. Ils sont forcément ensemble, c'est pas possible. C'est ça qui est. Mais des histoires, vous n'auriez même pas. Mais rocambolesques. Vous n'avez même pas idée d'un acteur qui. Ou d'une actrice qui, après avoir embrassé l'acteur, avait un verre à dents et se lavait les dents. Et le film est. Mais on est en larmes, enfin, c'est. C'est notre métier. Non, mais c'est notre métier. C'est comme si un artisan disait, j'étais de mauvaise humeur, donc j'ai fait un mur comme ça. Ben non, on s'en fout. Fais-moi un. Alors. Et tout est comme ça dans le cinéma. Tout le monde pense que quand on fait une comédie, on s'amuse beaucoup. On s'amuse pas du tout. Une comédie, c'est très, 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 très compliqué à faire, puisque c'est comme le métronome d'un piano. C'est au millimètre près. Un gag peut être formidablement drôle. À une seconde près, il tombe à l'eau. Alors que des films dramatiques, ou des films comme celui-là, qu'on a fait, qui sont des films très forts, on a eu un plaisir fou. On a vraiment, parce qu'on en avait besoin, il fallait qu'on se détende. Mmh. Entre les séquences, on a eu des moments avec des garçons, mais inouïs, hein, des moments, des fous rires, des. Et puis moi, j'étais au spectacle, et c'est très agréable. Ça a été une vraie communion. C'est très agréable de partager, de léguer et inversement au début du film ils pensaient qu'ils allaient apprendre beaucoup de choses de moi en disant on va travailler avec un acteur qui a de l'expérience des trucs on est comme ça qu'est-ce qu'on va faire Mais en fait, j'ai appris, si ce n'est autant qu'eux, plus que eux de eux. J'étais fasciné. J'étais en fait en face de deux jeunes, entre les prises, leur téléphone, les cigarettes, leurs discussions. Et en fait, ils m'ont donné une insouciance. Ils m'ont apporté de l'insouciance, de l'inconscience, même de la, dans le bon, dans le sens noble de la déconcentration. Et à force de m'intéresser, de m'inquiéter pour eux, parce que je m'inquiète tout le temps pour eux, moi. Et bah, du coup, quand un moteur, je me dis, mais merde, j'ai oublié de m'occuper de moi. C'était très intéressant, ça. C'est en ça que, je reviens à votre première question, c'est en ça que tout d'un coup le lien s'est fait et que, mais je ne suis pas arrivé en me disant, bon, comment je vais faire pour me rapprocher de non. On vit et puis on se rapproche des gens. Et maintenant, rétroactivement, je vous explique à quel point on avait une complicité énorme. Mais je ne suis pas arrivé en cherchant la complicité. Mmh. C'est le meilleur moyen qu'elle n'arrive pas. C'est voilà. Le meilleur moyen. Il n'y a pas mieux. Pareil pour l'amour. Le meilleur moyen de pas tomber amoureux, c'est de dire à ses copains toute la journée, non mais faut que j'en rencontre quelqu'un. Faut que j'en rencontre quelqu'un. Tu vas rien rencontrer. Voilà, faut décider. Voilà, je rencontre personne. Je suis très bien tout seul. Et bam, ça me tombe dessus.
Mais quand vous donnez votre amour, votre affection, votre amitié, est-ce que vous le donnez de façon aussi très inconditionnelle ou vous avez eu des tas de ruptures, j'imagine. Enfin, c'est quoi vos limites vis-à-vis du pardon, vis-à-vis du...
Elles sont extrêmement loin. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne beaucoup. On dit toujours qu'il faut laisser deux. Au moins une chance à quelqu'un, j'en laisse plus qu'une. Je suis d'un optimisme dingue de ce côté-là. Pour me perdre, il faut vraiment rentrer dans la définition de c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais par contre, si vous m'avez perdu, vous m'avez perdu. Et pour la vie. Mais c'est quasiment rarissime. J'ai toujours un... Même quand j'ai tort, je, à un moment, quand ça dure trop longtemps, j'ai besoin d'aller dire à la personne « Écoute, c'est ridicule, parlons. » En revanche, les gens qui me sont proches, si j'ai tort, je l'admets immédiatement. J'ai aucun souci à dire à quelqu'un « J'ai tort, je me suis conduit comme un imbécile, pardon. » Mais alors, aucun amour propre sur le pardon. Aucun. Mais aucun, c'est aucun. Aucun. Je peux me mettre à genoux devant quelqu'un pour demander pardon, ça m'est complètement égal. Si j'ai tort, ça m'est complètement égal, mais complètement. Et j'accepte le pardon des gens, et quand quelqu'un s'excuse, et après je vous laisse me poser la question, je ne supporte pas quand on fait les excuses à quelqu'un et qu'il dit « je ne les accepte pas ». Alors là, ça, ou je t'excuse, mais non, on excuse. Il n'y a pas de virgule.
Parfois, il faut un peu de temps, juste.
Oui. Parfois, il faut un peu de temps. Mais enfin, c'est pour ça que quand on vient et qu'on s'excuse, ça l'accélère et ça touche la personne.
Tout à fait.
Ça aide, quoi.
Mais ma question, c'était, Vincent, bon, c'est vrai que vous faites un... Ça s'appelle le cinéma social, même si j'ai bien compris que vous l'abordiez par l'humain, ou parfois le politique, le moral. Quand vous faites un juge dans la série d'Argent et de Sang qui cherche quand même à traquer une forme d'impunité, quand vous faites ce personnage de père qui cherche à comprendre pourquoi son fils part dans une sorte d'extrémisme. Je crois que vous allez être Jean Valjean, je ne me trompe pas. À quoi vous diriez que vous vous identifiez à ce moment-là? Est-ce que c'est à la justesse, à la justice, à une forme de morale
Non, mais je pourrais... C'est fou parce que... On me dit toujours ça à moi, mais est-ce qu'on demande dans Love Actually, le personnage de Hugh Grant, c'est un personnage dans les comédies qui est sociétal. Quand vous voyez
mais les acteurs de Ken Loach, par exemple.
Les acteurs de Ken Loach, mais pas seulement dans les films sociaux. Pardon, mais dans La Guerre des Roses, Michael Douglas, il y a tout est politique pour moi. Donc, dans les films de Michael Mann, il y a toujours une question politique derrière. Est-ce que c'est mieux d'être Al Pacino et de traquer le banditisme, ou est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un gangster parce qu'il a beaucoup de charme, qui fait le mal. Le Parrain, on est tous fous du Parrain. C'est un chef-d'œuvre. Mais si on se pose vraiment deux secondes, c'est une bande J'ose même pas dire le nom. C'est une bande de.
Elle est de salauds, on peut dire.
Mais à des niveaux hallucinants. Et si on touche à un de leurs cheveux, on se fâche. C'est ça qui est génial. Donc tout est politique et social. Mais dans Titane, je suis pompier, j'y peux rien. J'ai envie de faire ce film. Mais il y a une parole politique sur la féminité, la masculinité, l'homme, la femme. Bon, dans le choix, il y a quelque chose de politique. Il y a quelqu'un qui parle à son père, qui lui reproche de ne pas avoir été là. Donc c'est sur l'honneur, sur la façon de se conduire quand on est un homme un tant soit peu bien et qu'on n'abandonne pas une femme qui va accoucher d'un enfant de vous. Tous les films, mais pas que les miens, tout le monde, enfin que les miens, que dans ceux dans lesquels je suis, les œuvres sont politiques, les livres. Donc je n'ai pas ce, pour répondre à votre question, je ne suis pas avec un détecteur quand je reçois un scénario en disant, bon, là, il va falloir qu'il y ait du social, là, il va falloir, non, demain, si vous me proposez, demain, ça n'existera pas puisque c'est fait et que ça, mais si demain, on retourne 35 ans en arrière et que Spielberg me proposait de faire le rôle de Emmen Goethe, c'est-à-dire le rôle qui est tenu par Ralph Fiennes, qui est un épouvantable nazi dans le film, je le ferai à la seconde, puisqu'il est écrit fantastiquement bien. Et donc, quand un méchant ou une saloperie est écrit très, 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 très bien, il rend service à la cause qui s'oppose à lui. Le pire qu'on puisse faire, c'est écrire un méchant mal écrit, parce que, donc, on est anti-productif. Mais moi, je n'ai aucun problème. Demain, une comédie, un polar, un film d'action. J'ai pas de souci avec ça. Je fais des films qu'on m'envoie et qui me plaisent, mais je n'ai pas de genre. Et ça se ressemble. Le choix n'a rien à voir avec ça, qui n'a rien à voir avec Valjean. Valjean, on m'a pas attendu. C'est un film social, oui, mais c'est Hugo quand même. C'est le roman le plus connu du monde, oui, mais. Donc, tout le monde ferait Valjean. Tout le monde aurait fait Valjean.
Est-ce que je me trompe?
C'est pas que Vincent.
On vous envoie pas souvent des rôles de grands méchants, de grands salauds. On vous a pas vu souvent dans ce registre-là.
Bah, si, on m'en a envoyé, mais ils m'ont pas plu. Mais quand il y en a à faire, je le fais. Là, je pense que dans le scandale sur une affaire d'État, le mec est. Il a été disculpé maintenant, mais avant, quand le film se faisait, c'est plutôt le personnage qui est un peu le pourri. Je l'ai fait. Dans le choix, il n'est pas génial. Mon personnage, c'est très bien ce qu'il fait par rapport à cette femme qui va accoucher, mais c'est pas génial la façon dont il annonce à sa femme qu'il va pas rentrer. Je le fais. Si on propose un personnage qui est dans un autre monde de Stéphane Brisé, bon, alors à la fin il change d'avis et il donne sa lettre de démission et il dit ne comptez pas sur moi, mais il a quand même pendant des années exercé, ça lui a coûté même son divorce et le trouble psychique de son fils. En fait, pour être très franc et pour répondre à votre question, je ne choisis pas les personnages, mais je pense que par contre, quel qu'il soit, comédie, polar, film d'action, films sociaux, ce que vous voulez, si, il y a une chose, mais auquel je ne réfléchis même pas, c'est inconscient, oui, les personnages qui m'attirent sont des personnages dans la vie qui progressent. Voilà. Ça oui. Deux, trois secondes, je finis ma... Oui, je préférais toujours un enfant à l'école qui passe de 4 à 8 sur 20, que quelqu'un qui était à 19 et qui tombe à 16. Moi, j'aime les gens qui progressent, qui essayent de bouger, qui se donnent du mal. Voilà. Donc, en fait, sûrement qu'inconsciemment, tous les personnages qui me proposent ça, alors ils m'attirent. Voilà. Et qu'un personnage qui serait décadent, alors là, ça m'intéresserait moins. Voilà. Je préfère commencer, par exemple, le personnage ultime, on peut difficilement faire mieux, c'est le personnage d'Oscar Schindler. Bon, ben là, on peut pas faire mieux. Commencer comme un nazi et terminer comme un juste, oui, ben là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un acteur au monde. Lui, il a le rôle... Vous rendez compte, le parcours qui... c'est presque plus bouleversant.
C'est ça qui vous touche, c'est la justesse, en fait, peut-être aussi.
La justice ou la justesse ?
La justesse.
Oui, la justesse. Oui, faut, j'adore ça aussi, la justesse. Enfin, je ne sais plus. En fait, ça aussi, je m'invente des réponses.
Ouais.
Parce qu'on a des questions.
Merci, Vincent.
Non, je vous en prie.
Pas souvent.